Hervé.
Bonjour.
Dans la presse d'aujourd'hui, on parle beaucoup d'argent.
En couverture du Point, les milliards du Hezbollah, une excellente enquête qui conduit jusqu'en Amérique du Sud. L'envoyé spécial du magazine en rapporte les preuves du soutien apporté à l'organisation terroriste libanaise par des réseaux colombiens de trafic de drogue et de blanchiment. Au cœur du système, le clan de Mohamed Rada, un Libanais au passeport colombien, qui contrôle des boutiques de prêt-à-porter, des bijouteries, des pizzerias. L'un des frères du clan s'est fait arrêter au Salvador il y a quelques années avec 500 kilos de cocaïne. Selon l'enquête du Point, le Hezbollah profite de la mansuétude et parfois même du soutien des gouvernements de Colombie, du Venezuela et du Paraguay. Les circuits de blanchiment qui financent le terrorisme et la guerre contre Israël passent par des banques, par les crypto-monnaies, par des supermarchés et même par le commerce de voitures d'occasion.
Le Point décrit aussi les implantations du Hezbollah en France, car il y en a.
Le magazine rappelle que le mouvement libanais soutenu par l'Iran a commis jadis des attentats qui ont tué des Français, y compris sur notre sol dans les années 80. Mais le Hezbollah, écrit Le Point, joue sur une ambiguïté française. Comme l'Union européenne depuis 2013, la France considère comme terroriste la branche armée du mouvement, mais pas le mouvement lui-même. Distinction artificielle, explique Le Point, tant la politique commande le bras armé. Les activités du Hezbollah en France sont surveillées de près par la police et certaines alimentent le soupçon. En 2016, la police française et la DEA américaine, la police antidrogue, ont démantelé un circuit de blanchiment caché derrière des reventes de voitures de luxe. Le Hezbollah n'a pas été officiellement mis en cause dans cette affaire, mais dit Le Point, on a beaucoup parlé de lui durant le procès.
Encore de l'argent douteux, cette fois venu de Russie. Le Monde révèle que la justice a saisi des propriétés détenues par des proches de Vladimir Poutine.
Une villa sur la côte basque, un appartement à Paris en décembre 2023. Les deux biens ont été confisqués dans le cadre d'enquêtes ouvertes pour blanchiment d'argent. La villa est située à Anglette et considérée comme appartenant à l'ex-femme de Vladimir Poutine, qui est censée l'avoir achetée pour 5,5 millions d'euros, plus 3,5 millions de travaux, via son nouveau compagnon, russe lui aussi et de 20 ans son cadet, précise Le Monde, montant d'origine inconnue et sans proportion avec leurs ressources connues, indique la justice. L'appartement parisien, lui, appartient à l'ex-femme de Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, très proche de Vladimir Poutine. Il a été acheté en 2016 pour 1 700 000 euros. Et là encore, l'origine des fonds est jugée incertaine par la justice française, ce qui ressemble fort à une litote. Et je ne sais pas comment on dit litote en russe.
Moi non plus, c'est pas une litote ce que raconte la Cour des comptes sur les comptes de la nation. La Cour des comptes s'intéresse, elle, à l'argent public. Il en manque dans le budget de l'État. Son premier président, Pierre Moscovici, s'en alarme ce matin dans le Figaro.
Titre de son interview dans le quotidien conservateur, la prévision des finances publiques du gouvernement manque de crédibilité. La prévision en question, c'est le programme de stabilité que Bruno Le Maire a présenté hier au Conseil des ministres. Jugement sévère donc de Pierre Moscovici. Le gouvernement s'engage à réduire nettement le déficit dans les deux ans, tout en maintenant une prévision de croissance élevée. Or, on ne réduit pas aussi massivement les dépenses que le gouvernement s'y engage sans effet négatif sur la croissance, explique Pierre Moscovici dans le Figaro. Ce manque de crédibilité est aussi en une des échos, illustré cette fois par le visage grave de Bruno Le Maire, et en effet c'est grave, et l'opinion qui a refait les calculs indique même que pour repasser sous les 3% de déficit en 2027, comme le gouvernement le promet, c'est 95 milliards d'économies qu'il va falloir trouver. Ce n'est pas gagné.
Et ces économies gigantesques, c'est à Gabriel Attal de les trouver. Le Premier ministre franchit aujourd'hui la barre des 100 jours à Matignon. Qui peut encore l'ignorer?
Oui, et on peut donc dire que pour cet anniversaire, la Cour des comptes ne lui fait pas de cadeau. Je vous en parlais déjà hier. En effet, le Premier ministre, qui parlera ce soir à la télévision, est encore partout dans les journaux. Ce matin, on parle de ses 100 jours et certains lui promettent des jours sans. Gabriel Attal passera-t-il les européennes, se demandent les dernières nouvelles d'Alsace. 100 jours et après, questionnent le Télégramme et la Dépêche du Midi, La Croix souligne que la mauvaise santé des finances publiques fragilise la popularité du Premier ministre. Bilan contesté, opine Le Figaro qui publie un sondage d'où il ressort que Gabriel Attal est jugé dynamique, compétent et sympathique par une majorité de Français, mais que son action n'est jugée satisfaisante dans aucun domaine. Confidence de Gabriel Attal dans Le Point, si on se concentre sur les risques, on finit tétanisé et on ne fait plus rien, alors moi, je trace.
Dans Le Parisien, un grand patron français, celui de Michelin, Florent Ménégo, parle d'argent lui aussi, celui des salaires.
La question de la rémunération des patrons a été relancée, on le sait, par les 34 millions d'euros de Carlos Tavares. Vous voyez, j'ai du mal moi-même à retrouver les chiffres.
C'est bien 34 millions.
Tavares, le directeur général de Stellantis. Eh bien, le PDG de Michelin, lui, Florent Ménégo, vous l'avez cité, dit qu'il a lui-même souhaiter que sa rémunération soit plafonnée 1 100 000 euros par an, plus une prime indexée sur les résultats de l'entreprise qui peut aller jusqu'à une fois et demie son salaire. Ça fait à peu près 1 650 000 euros par an. Les salaires, dit-il, c'est comme la bonne cuisine, tout est question de proportion. Surtout, le patron de Michelin explique que le SMIC n'est pas un salaire décent. Ça va faire jaser chez les patrons. Le SMIC n'est pas un salaire décent. Chez Michelin, c'est cette notion de salaire décent qui sert de référence. La médiane de salaire des catégories les plus basses dans l'entreprise, explique son patron, est à 49% au-dessus du SMIC. Et malgré ça, Michelin reste le leader mondial incontesté du pneu. Pour mémoire, le SMIC s'établit aujourd'hui à peu près 1400 euros net par mois.
Ben si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, le patron de Michelin gagne 10 fois moins que le patron de Peugeot, grosso modo. Hein, si on
à
compte
peu près,
les
oui.
primes et tout ça. Comment calcule-t-on chez Michelin ce fameux salaire décent ?
Eh bien, pour Michelin, c'est le montant qui permet à une famille avec deux enfants de se nourrir, de se loger, de se soigner, d'assurer les études des enfants, d'épargner et de prendre des vacances, le tout calculé selon le pays et même la ville où le salarié travaille. Florent Ménégo explique aux Parisiens que le salaire décent est par exemple de 2 fois le SMIC à Paris et plus 20% du SMIC à Clermont-Ferrand. Il explique aussi que notre système d'exonération de charges sur les bas salaires est un piège, car s'il conduit les entreprises à embaucher, il les dissuade par la suite d'augmenter les salaires. Est-ce que Bruno Le Maire vous écoute sur la question du salaire décent, lui demande Le Parisien. Réponse du PDG de Michelin, je crois que oui. Le journal ne lui a pas demandé combien il serait prêt à miser sur ce pari.
Est-ce que vous pensez que Florent Ménégo ferait un bon invité pour la matinale ?
Ben, il est le bienvenu en tout cas.
Eh ben voilà, l'invitation est lancée par le directeur de l'information de Radio Classique, dont je vous le rappelle, l'audience progresse, ce qui nous fait très plaisir. Dans un instant, Esprit Libre avec Sophie Obadia et Nicolas Bavrez. À demain, mon cher.